On va continuer dans notre étude de l'épître de Pierre, la lettre de Pierre qu'il envoie à des chrétiens dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la Turquie actuelle. Et bien sûr, à travers ces personnes, il s'adresse à nous aujourd'hui. Et nous arrivons aujourd'hui à la fin de la première... Pas tout à fait, mais on arrive au dernier chapitre de la lettre, première lettre de Pierre. Il y a une deuxième lettre que nous étudierons après. Et là, on termine donc le chapitre 5. On ne va pas le terminer aujourd'hui, mais on aborde ce dernier chapitre. Donc si vous voulez trouver dans vos Bibles la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre, c'est vers la fin de la Bible. Un peu avant l'Apocalypse. S'il y a des personnes qui ont besoin de Bible, faites un signe, on pourra vous en porter. Voilà. Et on vous encourage à vous procurer une Bible personnelle pour pouvoir l'avoir à tout moment. Voilà, donc on va remettre ce temps encore une fois au Seigneur. Oui Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, elle est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds, elle nous évite de trébucher dans la vie, elle nous explique les raisons de nos difficultés, elle nous explique le péché qui est dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies. Et qu'en fait, tu es venu pour prendre soin, Seigneur, de ce problème terrible. Que tu es mort pour nos péchés et que si nous venons à toi, tu nous pardonnes et tu nous donnes une vie abondante, tu nous donnes une vie pleine de sens et pleine d'influence et de richesse, pas nécessairement financière, mais Seigneur, tu veux nous parler ce matin. Ouvre nos cœurs, que ton Esprit Saint, qui a inspiré ces propos à l'apôtre Pierre, puisse ouvrir nos cœurs pour les recevoir et que ces paroles, Seigneur, ces versets que nous allons regarder ensemble, puissent transformer nos vies, Seigneur. Seigneur, nous voyons autour de nous que nous vivons dans un monde plein de problèmes. Et souvent, quand on y regarde bien, tous ces problèmes, Seigneur, ils viennent à un problème dans notre cœur, Seigneur. Nous sommes égoïstes, nous voulons toujours plus pour nous-mêmes et souvent aux dépens des autres. Seigneur, toi, tu es venu, tu t'es donné en sacrifice, sans compter, Seigneur, et tu veux nous inspirer, tu es notre grand berger. Tu veux nous montrer ce qu'est un vrai berger, Seigneur. Nous te demandons de te révéler ce matin dans notre étude. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Donc, nous allons lire ensemble les premiers versets de ce chapitre 5. On va lire les quatre premiers chapitres. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Rappelle un peu le contexte. Pierre écrit à des chrétiens qui sont persécutés, qui commencent à être persécutés par l'Empire romain. Et pour les encourager, ils leur rappellent qu'il y a une espérance vivante en Christ, que nous vivons ici-bas, une vie terrestre, mais qu'il y a une vie éternelle qui nous attend. Souvent, on se limite à vivre pour cette terre. C'est intéressant de voir que les gens prennent des assurances sur la maladie. On essaye de voir quel est le meilleur moment pour prendre la retraite. Mais bien souvent, les gens ne pensent pas au-delà de la retraite. C'est la dernière chose dont on s'occupe. On ne veut pas parler de la mort, on ne veut pas s'occuper de la mort. Mais le chrétien n'a pas à être apeuré devant la mort. La mort, ce n'est qu'une transformation, c'est une étape dans notre destinée éternelle. Et ce qui peut paraître un peu comme quelque chose de morbide, croyez-moi que lorsque vous avez un être cher qui décède, c'est tellement appréciable de savoir que vous allez les revoir, qu'ils sont avec le Seigneur et que une éternité avec eux nous attend. Et donc c'est ce qu'il décrit. La semaine dernière, nous avons vu qu'il y a des épreuves dans la vie. Si vous n'avez pas remarqué ça, soit vous êtes très jeune, soit que vous avez été épargné de façon inhabituelle jusqu'à présent. Malheureusement, la réalité terrestre, c'est que nous avons des épreuves. Des épreuves qui peuvent être des petites choses, mais des épreuves qui peuvent être aussi des choses énormes. La perte d'un être cher, un décès, ça peut être l'annonce d'une maladie grave qui va vous rendre incapable de vaquer à vos occupations et qui va vous conduire à mourir plus rapidement que vous ne l'espériez ou que vous ne le pensiez. Toutes ces choses-là, on ne devrait pas trouver ça bizarre. Ne trouvez pas, lorsqu'il dit, ne soyez pas surpris de la fournaise. La fournaise, c'est les épreuves dures de la vie qui sévit parmi vous pour vous éprouver, pour vous tester comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Et en fait, il rappelle dans les versets qui suivent, à la fin du chapitre 4, que Christ a lui-même souffert des choses terribles et que nous, en fait, on peut, si on souffre pour le nom de Christ, alors on a de quoi se réjouir. Parce que c'est glorieux de participer aux souffrances de Christ dans ce sens-là. Par contre, bien sûr, si on souffre parce qu'on fait des bêtises dans nos péchés, à ce moment-là, on n'a pas de quoi se réjouir. On n'a que ce qu'on mérite. Mais si on souffre pour la volonté de Dieu, on peut remettre ses souffrances, nos âmes, on peut remettre ces choses à Dieu. Et c'est un grand réconfort. Et là, maintenant, il va dans les quatre versets que nous avons lus, il s'adresse aux responsables. Responsable d'église, notamment. Alors peut-être que quand je dis ça, il y en a certains d'entre vous qui disent « Bon, ben, c'est pas pour moi, je vais pouvoir lire autre chose ou dormir ou rêvasser un peu. » Me demander comment Élodie, qui est en train de courir la prom classique, se comporte. Est-ce qu'elle est en bonne position? Est-ce qu'elle a de l'énergie? Non, on prie pour elle. Mais l'idée, c'est que, quelque part, nous sommes tous des responsables d'église. Alors l'église, c'est peut-être pas une église association de 1905, mais ça peut être notre famille, ça peut être nos enfants, ça peut être, si vous êtes responsable au travail de quelques personnes, vous êtes un témoin, ou vous êtes appelé à témoigner par votre vie de la réalité de Christ dans votre vie, justement. Et on a tous à parler, à être quelque part des bergers, des petits pasteurs, des pastoureaux, des pastourelles. C'est joli ça, c'est non provençaux. Mais il commence par expliquer, et c'est une comparaison qui revient souvent dans la Bible, c'est que les chrétiens ou les hommes sont comparés à des brebis, à des troupeaux de brebis. Et c'est vrai que c'est peut-être pas très satisfaisant pour notre orgueil de dire qu'on est comme des brebis, peut-être comme des petits agneaux mignons, comme des vieilles biques, vieilles brebis, rebelles, etc. Mais quand on y pense bien, les brebis sont des animaux sans défense naturelle. Ils n'ont pas des grandes cornes avec lesquelles ils peuvent se défendre des animaux prédateurs. Ils n'ont pas de griffes redoutables. Ces brebis sont facilement effrayées. Elles sont prêtes à s'éparpiller. Les brebis ont tendance à se suivre les unes les autres. On parle dans la littérature, je crois que c'est avec Daudet, des moutons de Panurge. Il y en a un qui va dans une direction, même si c'est mauvais, même s'il risque de tomber, les autres vont suivre. Et puis il va y avoir un loup qui arrive dans le Mercantour, et il va y avoir plusieurs brebis qui vont se suivre et tomber dans un ravin. Ou être égorgées. Elles ne sont pas très malines. Les chiens sont intelligents. On dit qu'ils ont un quotient intellectuel assez important. Il y a beaucoup d'autres animaux. Les chevaux sont des animaux plutôt intelligents. Les brebis, on ne fait pas grand-chose avec. Ça fait un moment que je n'ai pas vu un numéro de brebis dans un cirque. On voit des lions, on voit des éléphants, on voit des chevaux, mais rarement des brebis. À ce propos, c'est des animaux qui ont beaucoup de prédateurs aussi. Et on raconte que dans le cirque Barnum, le grand cirque du début du 19e et début du 20e siècle, il y avait un numéro spectaculaire où un dompteur avait dans sa cage, une grande cage, il avait des ours, des tigres, des lions, des éléphants, et au milieu il y avait une petite brebis. Et les gens s'émerveillaient de voir que la petite brebis était là et qu'elle n'était pas attaquée par les animaux prédateurs. Et un journaliste demandait au responsable du cirque, M. Barnum, mais il n'y a pas des fois des accidents? Oh non, mais la chose, c'est qu'on change d'agneau tous les soirs. Ils ont des prédateurs. Nous avons des prédateurs nous-mêmes. Et là, il va parler, il va s'adresser donc aux anciens. C'est le mot duquel on tire le mot presbytère, qui sont parmi vous. Donc là, il s'adresse à des églises, mais encore une fois, ça s'adresse à des parents, ça s'adresse à des responsables. Si vous avez un ministère dans l'église, vous parlez aux enfants, aux adultes, aux jeunes adultes. Si vous avez une responsabilité de communiquer, de nourrir, d'entretenir, de veiller, de protéger sur quelqu'un, vous pouvez recevoir ces choses comme vous adressant directement à vous. Les anciens qui sont parmi vous, il va donner des conseils pour être un bon berger. Jésus, il le fait à la fin, il nous dit que le souverain pasteur va paraître. Donc là, il y a plusieurs mots qui sont utilisés, juste brièvement. Il y a le mot ancien, donc qui nous a donné le mot presbytère, qui veut dire qui est âgé, et qui fait allusion à une maturité spirituelle, essentiellement. Ça ne veut pas dire nécessairement un âge physique, un âge avancé. Il peut y avoir dans les églises des anciens qui sont relativement jeunes. L'âge physique devrait influencer la maturité spirituelle, mais ça n'est pas toujours le cas. Il y a des personnes qui viennent à Dieu et qui ne grandissent pas vraiment dans leur foi, dans leur relation avec Christ. Et par contre, il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes qui peuvent être très, encore jeunes, mais avoir une grande maturité spirituelle. L'autre mot, c'est le mot de berger, dont on a déjà parlé. Pour ceux qui s'intéressent, c'est le mot poimeno. C'est l'appel qui est donné à ces personnes qui ont cette maturité spirituelle. C'est de, encore une fois, de nourrir les autres. On va voir de quoi ils peuvent nourrir les autres. De les protéger, de les guider. Bref, de prendre soin de quelqu'un d'autre. Et puis, il y a un mot qui n'apparaît pas dans toutes les versions, parce que suivant les manuscrits anciens, il est présent ou pas. C'est le mot superviseur. Superviseur, c'est le mot qui nous a donné le mot grec episcopo, scopos. Épi, c'est au-dessus, et scopé, un télescope, c'est voir. Donc c'est surveiller, c'est veiller sur quelqu'un. C'est le mot qui donne le mot d'évêque épiscopal. Un palais épiscopal, c'est le palais où habitait l'évêque. Et c'était celui qui était responsable, qui supervisait, qui surveillait. Et tous ces termes se regroupent. Il y a des différentes organisations, types d'organisations d'église, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a les organisations où il y a un pasteur qui est responsable avec des adjoints, des assistants. Il y a des églises où ce sont des frères, les églises de frères, il n'y a que des anciens, entre guillemets. Mais souvent, si vous constatez la réalité des choses, il y a un ancien qui est plus ancien que les autres. Et c'est lui, en fait, qui est le pasteur. Suivant ces organisations, il y a beaucoup d'églises où il y a un pasteur assisté par des anciens qui sont formellement reconnus ou pas. Chez nous, on a des anciens qui ne sont pas encore reconnus formellement, mais on va essayer de mettre ça en place pour que tout le monde sache qui ils sont. Et on a aussi, pour des besoins administratifs et de loi, on a un conseil d'administration, on a un trésorier, on a un secrétaire, on a un président. On pourrait avoir d'autres personnes, mais ça, c'est des problèmes d'organisation. Là, il parle des choses du caractère qui est nécessaire pour être un bon berger. Et encore une fois, c'est l'apôtre Pierre. Alors là, si vous ne le connaissez pas encore, vous ne savez pas trop qui il est. Il n'était pas pape, parce que là, il dit qu'il est un ancien parmi d'autres. J'exhorte donc les anciens, c'est-à-dire je leur recommande vivement, qui sont parmi vous, donc dans vos églises, dans vos groupes. Moi, ancien commun, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Ça, c'est deux mots qu'on a vu beaucoup dans le texte. Je n'ai pas compté exactement, mais ça serait facile à faire. C'est le nombre de fois où il y a le mot « souffrance » et le mot de « gloire » qui sont associés. Et les souffrances terrestres vont conduire à la gloire céleste. Alors, ce ne sera pas notre gloire, mais notre gloire, ce sera d'être en présence de celui qui est glorieux, de toute éternité, Dieu et son Fils, qui est l'agneau de Dieu. C'est intéressant, c'est notre grand berger est aussi un agneau. Quelque part, ça donne confiance lorsque quelqu'un a une position de responsabilité, mais qu'il a été dans une position de subalterne où il a reçu les bénéfices d'une bonne supervision. Je n'ai pas eu l'occasion de savoir comment le premier match de Zidane en tant qu'entraîneur a tourné. Ils ont gagné ? Ils ont gagné ? Ouais. 5-0. Alléluia. Non. Mais pour l'instant, du moins, et on sait qu'il est sur un siège éjectable parce qu'ils ont mangé une dizaine d'entraîneurs en quelques années. Zidane, il inspire confiance. Pourquoi ? Parce qu'il a... Il a été lui-même un joueur, un grand joueur avec ça, mais il sait ce que c'est que d'être entraîné par quelqu'un avec leurs problèmes, leurs défauts, mais on lui donne ce crédit, il sait de quoi il parle. Et Jésus, il sait de quoi il parle. Il s'est offert en sacrifice. Il a été l'agneau. La plupart des personnes qui connaissent pas grand-chose encore à la parole de Dieu, à la Bible, si on leur demande quel est leur verset leur chapitre, leur passage favori de la Bible, je dirais que dans 80% des cas, sinon plus, c'est le psaume 23. Le psaume 23. On va le lire juste pour vous remettre en tête. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. On sent la provision, la paix, la direction qui sont assurées par le berger. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Le grand berger inspire du courage. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. On voit qu'il donne de la joie, du contentement, qu'il bénit, qu'il donne la faveur, et qu'il nous donne une destinée éternelle, une maison éternelle. Et ce petit passage de la Bible écrit par le roi David, qui était lui-même aussi un berger, il résonne dans tous les cœurs, dans les cœurs de tous les hommes qui sont honnêtes, s'ils prennent le temps de lire. Mais on aspire à avoir ce bon berger qui nous guide et qui prend soin de nous. Donc rapidement, on va voir les quelques qualités qui sont attendues, demandés, qui devraient être exigés, mais qui sont tellement importantes lorsqu'elles sont là et tellement manquantes lorsqu'elles ne sont pas là. Et je dois dire que quand j'étudie ce passage, je me remets en question, je me dis, est-ce que j'ai ces qualités ou est-ce que nous faisons tout en sorte pour que les personnes qui sont responsables dans l'Église et ses qualités. Ce n'est pas un passage anodin, c'est vraiment quelque chose de très important. La première de ses qualités, c'est l'humilité. L'humilité. Encore une fois, Pierre aurait pu se prévaloir d'être le grand apôtre qu'il était. Lui qui avait parlé à la Pentecôte et qui avait vu 3000 personnes se convertir juste par un seul sermon. Il aurait pu se prévaloir d'avoir connaître personnellement Jésus-Christ, d'avoir été choisi par lui. Il aurait pu parler de ses pêches miraculeuses, en insistant plus sur le nombre de poissons que sur l'aspect miraculeux de ces prises de poissons. Mais il n'en fait rien, il dit simplement qu'il est ancien comme eux. Il ne cherche pas à se mettre en avant, il ne cherche pas à s'enorgueillir. Et encore une fois, on le dit, l'humilité, quand on y pense bien, c'est C'est être humble, c'est être réaliste et réaliser que tout ce qu'on peut avoir comme qualité, c'est pas à cause de nous, c'est parce que Dieu a bien voulu nous les donner, qu'il nous a permis de les cultiver. Mais c'est vraiment stupide de penser que si on est beau, si on est riche, si on est, c'est parce qu'on est spécial. La seule chose spéciale, c'est que Dieu, nous, par sa grâce, nous confie des choses, nous donne des choses qu'il entend que nous utilisions pour sa gloire et pour aider, aimer les autres. Donc cette humilité, elle est essentielle. Il y reviendra plus loin lorsqu'il dira au verset 5, « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Par ailleurs, il est dit dans la parole, « Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu ? Pourquoi est-ce que donc vous en enorgueilleriez ?» Waouh ! Pas facile à dire. Pourquoi avoir la grosse tête alors que vous n'avez rien créé du tout? Vous êtes simplement des gens qui recevaient et qui devaient utiliser ces ressources qui vous sont confiées par Dieu pour servir les autres, pour le glorifier en servant les autres et en le servant. C'est quelque chose de remarquable chez Pierre. C'est vrai qu'il avait plutôt un tempérament fougueux. Il avait dû être repris par le Seigneur. Il pensait qu'il avait tout compris. Vous souvenez dans le passage de Matthieu 16, je crois, où il disait à Jésus, non, il n'y a pas question, tu n'iras pas à la croix, c'est pas un bon plan. Et Jésus avait dû le reprendre, lui disait, « Arrière de moi, Satan. » Alors, il ne disait pas que Pierre était Satan, mais il disait que Pierre était influencé par Satan et qu'en fait, il utilisait les paroles de Pierre pour essayer de décourager Jésus dans le plan de Dieu d'aller mourir pour les hommes. Il avait dit, « Non, laisse-moi, moi je connais maintenant, j'ai tout compris. » Et les épreuves ont fait rentrer l'humilité dans sa vie. C'est souvent le cas. La vie, les épreuves de la vie ont le mérite de nous montrer nos limites et de nous rappeler que nous avons besoin de Dieu. À tout moment, à chaque instant, j'ai besoin de Dieu. Et c'est souvent typique des personnes jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience de vie, d'avoir une tendance à l'orgueil, d'avoir une tendance à penser qu'ils savent tout, qu'ils ont tout compris, que les anciens n'ont pas bien compris les choses. Il va le dire, on n'a pas lu, mais au verset 5, « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. » Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité. Donc il y a de l'humilité de la part des jeunes envers les plus anciens, mais aussi des anciens envers les jeunes. Cette humilité, c'est le WD-40. C'est l'huile qui permet que les rouages de nos relations se passent bien. Lorsque quelqu'un est orgueilleux et pense vous dire que vous êtes moins qu'eux, ça passe mal. D'abord, ce n'est pas vrai. Et ensuite, ça crée de sérieux blocages. Il y a des pasteurs qui se font appeler révérends. J'ai un ami pasteur qui me disait, il avait rencontré quelqu'un, il lui demandait son nom, il dit, moi c'est le très révérend Joseph Pierre, ou quelque chose comme ça. Et l'autre, mon ami pasteur qui a un sens de l'humour, dit, moi c'est Jean encore plus révérend. Et il disait, qu'est-ce que c'est que ça? Quand tu te présentes comme étant le révérend ou le grand pasteur, de le pasteur senior, le seigneur pasteur. Il disait, ça veut dire que pour les autres, ça veut dire que vous n'êtes pas encore à mon niveau. Si seulement vous pouviez atteindre mon niveau, alors là vous seriez heureux et vous auriez vraiment une maturité spirituelle. Et Pierre, encore une fois, c'est pas du tout son cœur, parce que les épreuves de la vie l'ont marqué. Vous vous souvenez comment il a pleuré amèrement lorsqu'il a réalisé qu'en fait il avait renié Jésus-Christ 3 fois après l'arrestation de Jésus, même devant une petite servante, devant des gens autour d'un feu. Il prétendait n'avoir jamais connu Jésus-Christ, alors que peu de temps avant, il avait dit qu'il irait jusqu'à la mort pour lui. Et ça l'avait descendu intérieurement, ça lui avait rappelé qu'il n'était rien sans la grâce de Dieu. Et plus on est orgueilleux, et plus le Seigneur va devoir frapper fort pour nous rabaisser le caquet, comme on dit, pour nous ramener à la réalité des choses. Donc l'humilité dans vos rapports avec vos brebis, qu'elles soient dans une église, vos enfants, vos employés, les personnes que vous dirigez dans des ministères. Il va donc parler aussi d'une chose essentielle pour un berger. Et si vous remarquez bien ces versets, si vous connaissez un peu les évangiles, le livre des Actes, vous voyez que lorsqu'il donne ses conseils, Pierre parle de sa propre expérience. Lorsqu'il dit qu'il a été témoin des souffrances de Christ, on ne sait pas s'il était comme Jean devant la croix lorsque Jésus mourait, mais il ne devait pas être bien loin. Il a vu les souffrances, l'arrestation de Christ, comment il a été battu. Il a vu Christ qui suait des grumeaux de sang dans l'agonie de Gethsémané. Qui disait à son père, si tu peux faire passer cette coupe, Seigneur, Père, qu'elle passe. Je préférais éviter, s'il y avait un moyen de sauver les hommes qui soient différents. Mais il avait vu cette souffrance et il avait vu aussi la gloire de Jésus. Vous vous souvenez, sur le mont de la Transfiguration, avec Jean et Jacques, Jésus les avait invités à venir tous les trois et ils avaient vu Jésus transfiguré. Le corps de Jésus devenir transparent d'une lumière fantastique. Et Pierre, qui avait toujours l'habitude de parler avant d'avoir réfléchi, avait dit, on va construire 3 tabernacles parce qu'il y avait aussi Moïse et Élie. Moïse et Élie, qui étaient là, qui conversaient avec Jésus, il avait dit, on va faire 3 tabernacles. Et là, il y avait une voix dans le ciel qui lui avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Autrement dit, tu es à côté de la plaque, il ne s'agit pas de mettre Élie et Moïse au même niveau que Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est mon fils, c'est Dieu le Fils. Il avait vu cette gloire, il avait vu cette souffrance. Et donc, une deuxième qualité pour quelqu'un qui veut être un berger, c'est d'avoir une proximité avec Christ. Les brebis veulent quelqu'un qui connaît Christ. Quelqu'un qui prie, qui lit la parole, qui voit l'action de Jésus-Christ dans sa vie. Pas quelqu'un qui a lu des théories, qui a entendu parler de Christ, mais quelqu'un qui peut parler une expérience personnelle continue de proximité avec Jésus-Christ. Et ça, c'est, encore une fois, c'est Jésus nous invite tous à avoir cette intimité, cette proximité avec lui. On est aussi proche de Jésus qu'on veut bien l'être. C'est pas lui qui s'éloigne de nous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car mon joug est aisé, mon fardeau léger. Venez à moi, venez à moi. Et si on veut agir en tant que berger, on doit avoir ce contact avec Jésus-Christ. Quelqu'un qui serait pasteur, mais qui n'aurait aucune réalité de communion avec Christ, c'est comme quelqu'un qui se dirait joueur de foot, mais qui n'irait jamais aux entraînements, qui n'aurait jamais de rapport avec le coach. On pourrait mettre un maillot. Il paraît que les maillots du Real sont très chers en ce moment. Mais ce n'est pas le maillot qui fait le joueur. Ce n'est pas les prétentions, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, même de connaître certains passages de la Bible, mais est-ce que vous avez une réalité de vie avec Jésus-Christ? Est-ce que vous lui remettez vos problèmes, vos joies? Est-ce qu'il est réel dans votre vie? Et il peut toujours l'être davantage. Est-ce qu'il vous reprend? Est-ce que vous êtes repris par lui lorsque vous êtes tenté par le péché? Est-ce que vous conversez avec lui dans la journée, pas seulement le matin de bonne heure ou le soir avant de vous endormir, ou quand il y a une réunion de prière. Et ça, il était témoin des souffrances. C'est le mot martus qui donne le mot martyr. Martyr, c'est... Maintenant, on pense que c'est quelqu'un qui souffre, qui est persécuté. Mais c'est vrai qu'à l'époque de l'Empire romain, les témoins étaient persécutés. Donc les deux mots ont fini par avoir le même sens, mais c'était être le témoin. Est-ce que vous voyez Jésus-Christ dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous lui parlez? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous parlez de lui autour? C'est souvent le signe d'un grand amour, c'est on ne peut pas s'empêcher de parler de l'être aimé à ceux qui nous entourent. Humilité, proximité, et puis une chose, c'est d'aimer les brebis. Aimer les brebis. Faites paître, pas envoyer paître. Attention, c'est une expression française qui dit envoyer, balader les gens, non. Faites-les paître, ça veut dire prenez soin d'eux. Et là, encore une fois, ces brebis, il faut avoir de l'amour pour elles. Il faut vouloir leur bien. Ça, c'est important aussi, quand vous cherchez une église, de trouver une église, je ne me pose pas un exemple, mais d'avoir un endroit où on vous donne de l'amour sincère. Est-ce que les gens prennent soin de vous? Les brebis aiment bien être ensemble. Elles aiment bien leur bon berger. Et c'est intéressant de savoir que les brebis ont été probablement les premiers animaux domestiqués. Parce qu'elles sont grégaires, elles sont prêtes à suivre quelqu'un. Mais la première motivation, ça doit être l'amour de ces brebis, de ces autres personnes. Sinon, vous n'êtes pas un berger. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est employé. Il y a cette parabole où il est dit que celui qui est employé, quand il y a des menaces, il va s'enfuir, il va laisser tomber le troupeau. Par contre, le vrai berger, il va se battre jusqu'au bout pour ses brebis. Jésus s'est posé comme étant la porte de l'enclos. Intéressant, quand on va dans le Mercantour, quand on fait des retraites à Saint-Martin et qu'on va se promener dans le Mercantour, on voit encore aujourd'hui des enclos en roche où les bergers font rentrer leur troupeau la nuit. Et l'idée, c'est qu'ils se couchent à l'entrée dans leur sac de bivouac et de duvet en laine. Non, pas en laine, hein, sinon ça serait mal vu par les brebis. Ils bloquent et ils protègent le troupeau parce qu'ils les aiment. Il dit « Faites paître le troupeau de Dieu ». Notez bien que ce n'est pas le troupeau du berger, c'est le troupeau du grand berger. Il y a des pasteurs, et j'essaye d'éviter ça, mais des fois on est machinalement, on dit, quand on se retrouve entre pasteurs, « Mon église a fait ceci ou cela ». Vous n'êtes pas mon église, vous êtes l'église du Seigneur. Vous êtes les brebis du Seigneur. Vous êtes le troupeau de Dieu. Le mot troupeau en français a une connotation un peu défavorable. En anglais, c'est plus joli, c'est un flock. C'est plus prime sautier, c'est plus sympathique. Mais il n'y a rien de méchant, c'est simplement la réalité de qui nous sommes. Et ce n'est pas du tout pris péjorativement dans ces passages. Faites paître le troupeau de Dieu, donc aimez les brebis. Comment est-ce qu'on fait ça? On en a parlé, on va d'abord les nourrir. Les nourrir. Et les brebis aiment tellement manger qu'elles ont 4 estomacs. Vous vous souvenez de vos cours de sciences nat? Il y a les bovins, les ovins, les ruminants. Pour pouvoir ruminer, ils ont besoin de 4 poches dans ce qu'on appelle leur estomac. Il y a la panse, le réseau, le feuillet et la caillette. Waouh ! En latin, c'est le rumen, le reticulum, l'omasum et l'abomasum. Tout ça, c'est pour que... Et c'est bien fait, en fait, parce que ça limite le temps où ils mangent dans le champ, les brebis. Ça limite le temps où ils sont exposés à des prédateurs. Ils vont dans le champ, ils arrachent avec leurs grosses molaires et leurs grosses dents les herbes, les brins d'herbe, et puis ils avalent ça, ça va dans une première poche, la panse, ils se gavent la panse, et puis après ils peuvent partir et ils continuent le cycle. Ils leur régurgitent dans leur bouche ce qu'ils viennent de digérer. Je vois, vous aviez faim pour midi, maintenant c'est moins faim. Et puis après, ça repasse dans une autre poche où il y a des enzymes qui détruisent les fibres végétales pour les transformer en éléments assimilables. Après, ça passe dans le feuillet, la caillette. Ce qui est intéressant, c'est que ce processus de rumination, c'est aussi le mot qui est utilisé dans les psaumes pour dire « méditer la parole de Dieu ». Vous pouvez recevoir quelque chose aujourd'hui, lire un passage de la Bible, et après vous pouvez le méditer, vous pouvez le ruminer, vous pouvez y penser, vous pouvez vous dire « oui, c'est vrai, ça veut dire ça, mais aussi dans mon cas, ça pourrait vouloir dire telle chose, oh, c'est puissant, ça, c'est beau, c'est... » Réfléchissez, méditez, pensez, passez du temps. Et c'est quelque chose, vous n'avez pas besoin d'être en prière toute la journée, les yeux fermés au travail. Vous pouvez avoir reçu quelque chose dans votre dévotion, temps de dévotion personnelle, et après vous y pensez, vous y réfléchissez. Et là, vous allez pouvoir assimiler. Il est dit donc de recevoir cette nourriture, c'est une preuve vraiment de l'amour, mais aussi la protection, la direction, conseil inspiré par Dieu, conseil désintéressé. Et là, il va aussi parler de ça. Un des quatrièmes points, c'est de servir de façon volontaire, pas de le faire parce qu'on vous a forcé, ou vous dites, bon, ben, je vais m'occuper des bébés parce qu'il n'y a personne qui veut le faire. Bon, ben, je vais le faire. Non, mettez-y de l'enthousiasme. L'enthousiasme, ça veut dire être infusé, avoir en soi, théos, in théos, enthousiasmos. C'est Dieu en vous. C'est Dieu qui est dans votre cœur et qui se manifeste par de l'amour pour les autres, de la joie, du plaisir à servir les autres. Alors c'est vrai que des fois, on est obligé, parce qu'il y a des choses qui doivent avoir lieu. Si personne ne veut le faire, on désigne quelqu'un, on le fait soi-même. Mais soyez à l'écoute, soyez vigilants, voyez les besoins dans l'Église. Proposez-vous si vous pouvez aider dans tel ou tel domaine. Et ça, c'est volontairement d'après Dieu. Vous avez envie de servir et vous le faites. Sinon, vous n'êtes pas un vrai berger. Il ne faut pas le faire pour un gain sordide, mais de bon cœur. Il y a certaines personnes, non, pas trop en France, parce qu'il y a tellement peu d'églises, les églises sont si petites, qu'on ne devient pas riche en devenant pasteur, mais il y a des endroits dans le monde, aux États-Unis, dans le monde américain, dans... Même en Afrique, certains peuvent devenir riches. Mais ça, tout ce qui est motivation impure, si ce n'est pas l'amour de Christ, si c'est pour la gloire, si c'est pour l'argent, si c'est pour vous sentir bien, non, ce n'est pas des bonnes motivations. La motivation, encore une fois, c'est l'amour des autres. Servir volontairement avec joie. Donc, pas pour l'argent, on a dit, il n'est pas mauvais pour celui qui nourrit les autres de la parole, de recevoir d'eux de quoi vivre et de pouvoir, ça c'est dans 1 Corinthiens 9, 14, on n'a pas le temps de s'y tourner, mais vous pouvez le noter. Il est bon de pouvoir vivre de son travail de pasteur, et c'est logique, c'est... Ici, pour une petite parenthèse, l'argent que vous confiez au Seigneur dans l'Église sert essentiellement au remboursement du prêt pour l'achat des locaux et pour les frais de fonctionnement. Rien ne va aux pasteurs ou à ceux qui travaillent comme pasteurs. Pour l'instant, ils sont dans une position où ils reçoivent leur soutien financier de personnes étrangères, de personnes, des amis, des églises qui soutiennent ce ministère. Éventuellement, lorsque le prêt sera remboursé, à moins qu'on ait beaucoup plus de monde et beaucoup plus de ressources, on pourra envisager de rémunérer le pasteur. Mais pour l'instant, sachez que ce n'est pas le cas. Et le Seigneur est bon et il prend soin de nous. Une chose aussi, c'est pas de tyranniser ceux qui sont confiés. Il y a des gens qui pensent que avoir l'autorité, ça veut dire être autoritaire et traiter les gens comme des bons à rien et leur imposer nos caprices. Ça aussi, ça n'est pas quelque chose de beau qui plaît à Dieu. Mais au contraire, on doit devenir, c'est le sixième point, on doit devenir des exemples, pas des dictateurs. Il est beaucoup plus facile de suivre quelqu'un qui nous montre l'exemple que quelqu'un qui veut nous imposer arbitrairement ses volontés. Et on voit dans tous les cas où il y a ce rapport de pasteur à un groupe, que ce soit dans la famille, dans le travail, dans l'église, si la personne, encore une fois, comme Zidane, est prête à être un modèle, alors on évite les coups de boule. Malheureusement, il y a des tâches, mais Dieu pardonne. Devenant des modèles pour le troupeau, des modèles, des exemples, c'est le mot « tupos », c'est un type, c'est une empreinte. Et vous avez peut-être connu comme ça des personnes qui vous ont marqué leur façon de vivre, leur service, que ce soit dans l'Église ou dans d'autres domaines. Vous avez été marqué, vous avez reçu leur empreinte. C'est ce que un pasteur devrait être pour ses brebis. Et puis, il y a cette finalité, on sait qu'un jour on va rencontrer Jésus-Christ. Soit ça sera son retour qu'il annonce, à chaque fois qu'on prend la Sainte Cène, ce qu'on va faire maintenant, soit parce qu'on va mourir et être avec lui. Mais on a des comptes à rendre. Et si on est fidèle à ses préceptes d'humilité, de proximité, d'amour comme motivation, de service volontaire, de motivation pure et non mercantile, et qu'on sert d'exemple à ce moment-là, on remportera la couronne incorruptible de gloire. Ça, c'est tout un autre... On pourrait faire toute une étude sur les couronnes que l'on reçoit dans la vie chrétienne. Sachez que c'est une motivation valable, pas pour s'en enorgueillir toute l'éternité, parce qu'il est dit dans le livre de l'Apocalypse que toutes ces couronnes, on les remet aux pieds de Jésus-Christ. Parce qu'on réalise encore une fois que c'est seulement par sa grâce qu'on a pu être à la hauteur de son appel.